Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a évoqué les idées et les innovations des jeunes lors de la commémoration de la Journée des Nations Unies. L'ONU salue le partenariat avec l'Indonésie à l'occasion de la Journée des Nations Unies. L'Indonésie, Singapour et la Malaisie renforcent la sécurité du transport maritime. L'Université Syah Kuala organise une conférence internationale sur la pêche à l'ère de l'économie bleue. Le gouvernement augmente les exportations de crevettes blanches de Sulawesi Central vers l'Égypte. Voici le journal complet. Le Centre d'information des Nations Unies, ONU Indonésie, en collaboration avec le ministère indonésien des Affaires étrangères et le ministère indonésien de la communication et du numérique, a organisé une commémoration de la Journée des Nations Unies à l'auditorium de l'Université Binus, campus Anggrek, Jakarta, jeudi 24 octobre. Le conseiller principal du ministère des Affaires étrangères pour les affaires politiques, juridiques et de sécurité, Adam Mulawarman Tugio, était présent à l'événement pour représenter le gouvernement indonésien. Devant des dizaines de diplomates et des centaines d'étudiants de l'Université de Binus présents, Adam a déclaré dans son discours que le thème de la Journée des Nations Unies de cette année, qui célèbre la jeunesse mondiale, est très pertinent, car un tiers des objectifs de développement durable ODD se concentrer sur la participation des jeunes.
Ya, kalau terkait dengan penguatan demokrasi ya tadi itu ruang-ruang partisipasi harus dibuka terus ya. Jadi
Ser participant, mesdames et messieurs, imaginez un monde où chaque jeune est un catalyseur de changement, où ses idées et ses innovations sont les gemmes de l'avenir de notre planète. Aujourd'hui, lorsque nous célébrons la Journée des Nations Unies, nous réalisons que ce monde n'est pas seulement un rêve, mais une réalité grâce au potentiel incroyable de notre jeunesse. Adam a ajouté que les jeunes ont une créativité inégale et sont capables de sortir des sentiers battus. Il a également donné l'exemple de plusieurs jeunes personnalités qui ont un impact positif sur la société et ont fait évoluer le monde dans une meilleure direction. À cette occasion, un timbre spécial pour la Journée des Nations Unies a été lancé, dont le dessin a été créé par les gagnants du concours de timbre organisé plus tôt cette année. En dehors de cela, il y a des expositions organisées par les agences des Nations Unies Indonésie et des débats sur la jeunesse. La chef du représentant des Nations Unies, ONU Indonésie, Gita Sabarwal, a déclaré que la Journée des Nations Unies qui tombait jeudi 24 octobre en plus de célébrer la fondation de l'ONU, célébrer également le partenariat de l'ONU avec diverses parties, à la fois le gouvernement et la communauté mondiale. Dans son discours lors de l'événement de commémoration de la Journée des Nations Unies à l'auditorium de l'Université Binus, campus en grec, Jakarta, jeudi 24 octobre, Gita a salué le rôle de l'Indonésie à l'ONU en soulignant l'ampleur de la contribution de l'Indonésie à la casque bleue. L'Indonésie fournit jusqu'à 2200 casques bleus et est le cinquième plus grand contributeur de casques bleus.
The UN is a product of hope. Its mission remains vital in the face of
L'ONU est le fruit de l'espoir. Sa mission reste de lutter contre les conflits géopolitiques, la crise climatique et la montée des inégalités. Lorsque nous célébrons la Journée des Nations Unies, nous célébrons également le pouvoir de ces partenariats avec les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les communautés. Gita Sabarwal a également souligné le rôle des jeunes dans le développement du monde en utilisant la technologie, affirmant que les startups fondées par des jeunes entrepreneurs ont fait de l'Indonésie l'un des leaders en Asie. La Journée des Nations Unies de cette année a pour thème « Pacte pour l'avenir, la jeunesse au cœur du changement », mettant l'accent sur le rôle des jeunes dans la promotion de l'innovation, de la paix et du développement durable. Lors de l'événement, un séminaire sur la jeunesse et une exposition sur les agences des Nations Unies ont également eu lieu. L'Indonésie, la Malaisie et Singapour continuent de renforcer leur synergie pour améliorer la sécurité maritime et protéger l'environnement maritime dans le détroit de Malacca et le détroit de Singapour. Cité Pantara, le directeur de la navigation de la Direction générale des transports maritimes du ministère indonésien des transports, Budi Mantoro, a déclaré dans un communiqué à Jakarta jeudi 24 octobre que cela avait été fait par l'intermédiaire le forum du groupe tripartite d'experts techniques TTEG, tenu à Nusa Dua, Badung, Bali, mercredi et jeudi. Budi a souligné l'importance du détroit de Malacca et du détroit de Singapour pour le transport maritime international, de sorte qu'en 1975, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour ont formé le forum TTEG. Selon lui, depuis la création du forum du groupe tripartite d'experts techniques, ou TTEG, les trois pays ont travaillé ensemble pour produire diverses initiatives, telles que des réglementations sur le mouvement des navires et des systèmes de séparation de trafic. Lors de cette réunion, l'Indonésie a participé activement aux discussions et a apporté sa contribution concernant la sécurité maritime dans le détroit de Malacca et d'autres autres du jour. La Faculté des Affaires maritimes et de la pêche de l'Université Syekh Kuala, Banda Aceh, a organisé la conférence internationale 2024 sur la pêche et les sciences de l'environnement ICFAES jeudi 24 octobre. La conférence a rassemblé des experts mondiaux pour discuter des affaires maritimes et de la pêche en vue d'une économie bleue. Cité par Antara, la présidente du comité ICFAES 2024, Irma Dewianti, de Banda Aceh a déclaré que lors de cet événement, sa partie avait souligné le désir de l'Indonésie d'explorer plus en profondeur le potentiel des ressources naturelles dans le secteur marin et halieutique. Cette conférence vise à relier la recherche et l'innovation en matière de pêche marine à l'ère de l'économie bleue avec tout son potentiel. Certains des chercheurs qui ont pris la parole étaient le professeur Yutaka Takeuchi, l'Université de Kanazawa au Japon, les professeurs Giovanni et Sarah Pino de l'Université de Melbourne en Australie. L'attaché commercial de l'ambassade de la République d'Indonésie au Caire et le service maritime et des pêches de la province de Sulawesi centrale collaborent pour augmenter les exportations nationales de produits à base de crevettes blanches vers le marché égyptien. Comme l'a rapporté Antara, l'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, Lutfi Raouf, a visité l'étang d'élevage de crevettes blanches de EPU Société Anonyme dans Sulawesi centrale. Dans sa déclaration de jeudi 24 octobre, Lutfi a déclaré que la crevette blanche cultivée est l'un des produits de la pêche et de la mer indonésienne qui est populaire auprès des consommateurs sur le marché égyptien. Pendant ce temps, L'attaché commercial indonésien au Caire, Mohamed Shahran Bakti, a déclaré qu'un système opérationnel de numérisation des données prenant en compte la durabilité des entreprises et l'environnement environnant apporterait une valeur positive. Cela devrait attirer des acheteurs potentiels d'Égypte et d'autres pays voisins. Shahran a ajouté que les fruits de mer indonésiens exportés vers l'Égypte en 2023 valent 2 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 30 milliards de roupies. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous, voici le commentaire d'aujourd'hui dont le titre est « Les BRICS appellent au cessez-le-feu à Gaza ». La réunion de haut niveau des groupes économiques Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ou abrégé en BRICS qui s'est tenue dans la ville de Kazan en Russie du 22 au 24 octobre a accordé une attention particulière à la situation en Palestine, en particulier à Gaza. Les BRICS, lors de la réunion, ont adopté une déclaration commune affirmant la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza. Jusqu'à présent, Israël continue de mener des attaques contre la région de Gaza, tuant au moins 43 000 victimes et en blessant actuellement 100 000 autres personnes. Dans la déclaration de Kazan, publiée mercredi dernier, les participants à la réunion ont souligné la nécessité d'un cessez-le-feu global et permanent dans la bande de Gaza. En outre, ils ont également convenu de libérer immédiatement et sans condition tous les otages des deux parties détenues illégalement. En outre, aucune tentative ne devrait être faite pour entraver le flux continu et à grande échelle de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. La déclaration exprime également la profonde préoccupation des pays BRICS face à l'aggravation de la situation et à la crise humanitaire dans les territoires palestiniens occupés par l'armée israélienne. Ils ont également appelé à la pleine mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays BRICS ont également salué les efforts de l'Égypte et du Qatar, ainsi que d'autres efforts régionaux et internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et à accélérer la distribution de l'aide humanitaire. La déclaration de Kazan exprime également son inquiétude quant au risque de nouvelle escalade du conflit dans la bande de Gaza, d'accroître les tensions, l'extrémisme et d'entraîner des conséquences très dangereuses au niveau régional et mondial. Les pays de BRICS ont appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à éviter les actions d'escalade et les déclarations provocatrices. En outre, il existe également un compte rendu de mesures provisoires prises par la Cour internationale de justice dans le cadre de la procédure engagée par l'Afrique du Sud contre Israël. Les membres des BRICS ont réitéré leur soutien à l'admission de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU dans le contexte de leur engagement en faveur d'une solution à deux États fondée sur le droit international. On espère que la déclaration de Kazan adoptée par les pays membres des BRICS, qui représente 23% du produit intérieur brut mondial et 42% de la population mondiale, pour encourager une résolution accélérée du conflit à Gaza. C'est tout le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Je commence avec les événements du 25 octobre 1945. Les troupes des Alliés ont débarqué à Surabaya. Les troupes des pays alliés ont débarqué aux portes de Tanjung Perak, Surabaya, Java Oriental, le 25 octobre 1945. Le débarquement était dirigé par le général de brigade Malabi d'Angleterre. Les troupes alliées, au nombre de 6000 personnes, ont établi des postes de défense dans plusieurs coins de Surabaya et avait l'intention de désarmer toutes les armes contrôlées par le peuple indonésien. L'arrivée des troupes alliées s'est heurtée à la résistance des troupes indonésiennes, provoquant un conflit armé. L'une d'entre elles est la bataille du 30 octobre 1945, qui a tué le chef de l'armée alliée, le général Malabi. Cet événement a déclenché l'ultimatum britannique et le déclenchement de la bataille du 19 novembre 1945, connue comme la journée des héros en Indonésie. Le 25 octobre 1973, la fin de la guerre du Yom Kippour. La guerre du Kippour, ou guerre d'octobre, est une guerre qui a eu lieu en octobre 1973 entre Israël et une coalition d'États arabes dirigée par l'Égypte et la Syrie. La guerre a commencé le 6 octobre lorsque les Juifs, le plus grand groupe religieux d'Israël, célébraient la fête de Yom Kippour. L'Égypte a l'intention de récupérer des terres à l'est du canal de Suez pour restituer la péninsule du Sinaï, occupée par Israël depuis la guerre des six jours en 1967. La guerre s'est terminée par un cessez-le-feu le 25 octobre 1973, mais la péninsule du Sinaï n'est revenue à l'Égypte qu'en 1982. le 25 octobre 2009, l'explosion d'une bombe à Bagdad. Deux attentats suicides ont explosé à Bagdad, en Irak, le 25 octobre 2009, à 10h30 heure locale. Les bombes se trouvaient dans une mini-fourgonnette et un bus visant les bâtiments du ministère irakien de la justice et du conseil provincial de Bagdad. Cet accident a fait 155 morts et au moins 721 blessés. En 2010, la police irakienne a arrêté le cerveau de l'attentat, à savoir Mounaf Abdul Rahim al-Rawi, le chef du groupe Al-Qaïda à Bagdad. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Ministère de l'Agriculture assure qu'il est prêt à se battre pour créer une Indonésie souveraine alimentaire ». Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, a déclaré son engagement à réaliser la souveraineté alimentaire indonésienne en mettant l'accent sur l'augmentation de la production et l'expansion des zones agricoles. Le président Prabowo et le vice-président Gibran accordent une grande attention au secteur agricole afin qu'il puisse atteindre l'autosuffisance le plus rapidement possible. C'est ce qu'a déclaré mercredi le ministre indonésien de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, dans un communiqué à Jakarta, cité par l'agence de presse Antara. Le ministre Amran a déclaré que le vice-ministre de l'Agriculture, Sudaryono, et lui, qui dirige à nouveau le ministère de l'Agriculture, étaient prêts à déployer tous les efforts possibles pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Amran a souligné que cela était conforme aux orientations du président Prabowo dans le cabinet rouge et blanc 2024-2029. La raison en est que l'Indonésie doit être en mesure d'atteindre la souveraineté alimentaire afin de réduire sa dépendance aux importations alimentaires. En dehors de cela, le ministre de l'Agriculture a déclaré que c'était maintenant un moment en or pour mettre en œuvre des programmes durables du ministère de l'Agriculture. Le ministre Amran a expliqué que l'autosuffisance alimentaire pourrait à nouveau être atteinte grâce à des programmes réels et durables de la période de leadership précédente. L'un d'eux est le programme d'impression des rizières qui encourage la transformation agricole du traditionnel au moderne, la mécanisation et l'augmentation des capacités des jeunes agriculteurs. Selon le ministre Amran, sa partie envisage de construire 40 000 hectares de nouvelles rizières à Merauke. Le budget précédent du ministère de l'Agriculture était compris entre 6,9 millions et 30 millions de roupias et il avait été promis qu'il s'élèverait à 68 millions de roupias. Par conséquent, le ministre Amran a encouragé les rangs du ministère de l'Agriculture à mettre en synergie et à se coordonner les uns avec les autres. C'est Zurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Dengan perbuatanmu. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perasaan.
membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata, juga luar biasa.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Opor Ayam. Dans l'édition d'octobre, via son site officiel Tes Atlas a publié des recommandations pour les 5 menus de ragout les plus délicieux dans le monde. La liste a été obtenue via une enquête menée jusqu'au 15 octobre 2024. Parmi la liste des 100 menus de plats bouillis les plus délicieux dans le monde, il existe 4 menus indonésiens. Le premier plat typique indonésien a été nommé Ragout le Mio Noté, ou menu de plats bouillis le plus délicieux, et le rendang. Rendang occupe la 6e position. Vient ensuite Gulai, qui occupe la 11e position avec une note de 4,5. Cet aliment est à base de viande et cuit avec un mélange de lait de coco et d'épices. Ensuite, il y a le poulet opor qui occupe la 71e position avec une note de 4,3. Enfin, il y a le riz rendang qui est classé 81 avec une note de 4,3. Ce plat est servi avec du riz et d'autres aliments supplémentaires, tels que des légumes, de la sauce, de la saucisse, etc. Cette fois, nous présenterons l'un des 4 plats typiques indonésiens qui figure sur la liste des 100 menus de plats bouillis les plus délicieux, à savoir le opor ayam. Opor ayam est un plat culinaire que l'on retrouve généralement lors de la fête Idul Fitr et qui est très populaire dans diverses régions d'Indonésie. Opor ayam est un plat culinaire à base de poulet bouilli, le lait de coco et de diverses épices telles que la citronnelle, le galanga, le curcuma, la noix de bougie, etc. Le plat est généralement consommé avec des œufs durs et des noyons frites. D'habitude, le poulet opor est dégusté avec du riz ou du ketupat pour rendre encore plus délicieux. Actuellement, divers variants de poulet opor sont disponibles. Il existe des opor de poulet jaune, opor de poulet indigène, opor de poulet japonais. Même les assaisonnements instantanés pour poulet sont désormais vendus librement sur le marché. Ainsi, tout le monde peut préparer du poulet opor à la maison. Vous pouvez également déguster du poulet opor dans divers restaurants en Indonésie. Le prix est d'environ 20 000 jusqu'à 25 000 rupiah par portion avec une assiette de riz. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku. Hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Voice of Indonesia.
Aku berlari mengejar sebuah kebahagiaan.
Sejurita, c'est la chanson pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la week suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter l'innovation en matière de biscuits d'un étudiant de l'université Syekh Kuala d'Aceh représente l'Indonésie en Croatie. L'innovation des biscuits aux coquilles d'œufs appelés biscatur par les étudiants de l'université Syekh Kuala de Banda Aceh a représenté l'Indonésie au 48e Salon et Concours d'Invention Innova organisé par l'Association mondiale de la propriété intellectuelle des inventions 2024 à Zagreb en Croatie. Galus Satwika Paramita, le PDG de Biscatur, a pour représenter l'Indonésie au plus grand et au plus ancien concours de recherche et salon d'innovation de produits en Europe du 16 au 20 octobre 2024, après avoir réussi la sélection des résumés et avoir concouru avec 4000 participants de divers pays. Biscatur est le premier biscuit d'Indonésie à utiliser des coquilles d'œufs riches en bienfaits. De plus, Biscatur est aussi équipé de lait de chèvre et tawa, qui est moins allergique que le lait de vache. Ces biscuits aux coquilles d'œufs sont également fabriqués à partir de sucre de palme, qui représente de nombreux avantages pour la santé du corps. Le Biscatur peut répondre aux besoins quotidiens en apport, en particulier aux besoins en calcium pour prévenir le retard de croissance et osteoporose. Un morceau de biscatur contient 1,5 g de calcium, ce qui répond à 100% des besoins en potassium. L'équipe de l'Université Syekh Kuala a également remporté la première place au concours régional du Prix à Mumbai en Inde dans la catégorie réelle en juin 2024 et à Ipitex en février 2024 à Bangkok. Biscatur est commercialisé depuis 2022 et maintenant il s'est étendu à 30 districts ou villes d'Indonésie en ligne via des places de marché telles que Shopee, TikTok Shop et WhatsApp. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Lihat peluang, buka mata, lihat dirimu, tak masalah, gapai mimpimu. I stick to the plan, and I don't give a damn. You don't need to worry, we gonna be, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
We gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
biar jadi masalah. Lu yang negatif biar jadi yang elak. Lu
ayo coba.
Freeze harus lebih dingin. Peace tolong didamain. Oh cheers tolong dituangin. Lebih santai dikit kalau panas harus cooling down.
Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpi.
Stick to the plan. To worry, we gonna be, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
Siap ambil papan. Bila mereka tetap tinggal, ku tetap maju ke depan.
Hey, I don't give a damn. We gon' be alright. Sometimes we need to slow.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Stick around and get along with you. You know that I'll be with you if I could. I'll come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. Oh, life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. No, you're so fine being on my mind. Get nervous every time and I can bear. Thank you.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Biasa lempang badarat kuatna padu muka na lembur singkur ngahuma jadi pakasabana lembur na nyingkur hawati is seger raresik jeng bersih hirup na nyekel Papagon leluhur geus kemasyhur disebut kanekes Urang kabadi ningali lembur pika betahan Urang kabadi rayakan cida karajinanana
Urang kabadi
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.